Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h, vous êtes sur Radio Lodev. C'est l'émission du bruit dans les feuilles, une émission mensuelle de l'association Paysarbres où on parle de local, où on parle de rural et d'initiatives innovantes. Merci d'être à notre écoute, on est quelques-uns dans le studio, alors je vais commencer par un petit tour de présentation. Philippe Calamand, tu nous as fait le plaisir de venir. Pour parler
personne
ne
va le reconnaître si tu dis ça.
Alors oui, pour les intimes, c'est Kalos, ou pour ceux qui le connaissent d'un peu plus près. Alors ça sera Kalos parce qu'on se connaît un petit peu Kalos. Bonjour Kalos.
C'est vrai. Bonjour à tous. Eh ben merci de me recevoir. Je suis content de venir écouter ce qui se passe dans les nouvelles des arbres et le vent dans les feuilles, ça m'intéresse.
Et on est aussi avec Raphaël ce mois-ci.
Et bonsoir tout le monde, ça faisait un petit moment que je vous avais pas vu ou entendu. Ou ni l'un ni l'autre.
Voilà. Et eh ben, on va enchaîner alors avec ma première rubrique, c'est l'arbre du mois. Et après, on reviendra avec Kalos sur le pourquoi on l'a invité, pour qu'il nous parle de sa production. Il est exploitant agricole et il produit quelque chose d'assez original finalement qu'on trouve assez peu souvent au nombre des productions possibles pour un agriculteur. Il produit de la spiruline. Donc, on vous dira tout sur la spiruline un peu plus tard. Kalos, pardon.
Vas-y, je t'en prie.
Kalos, tu n'hésites pas, si tu veux intervenir sur ce dont on va parler avant, à m'interrompre, à rajouter des choses, à dire tes petites anecdotes que tu pourrais avoir. Enfin voilà, c'est ouvert et c'est participatif comme émission.
C'est libre.
D'accord, je n'hésiterai pas.
Donc on a abandonné la petite cloche, c'était bien, elle nous cassait un peu les oreilles. Mais on garde quand même un petit déroulé. Donc on parle de l'arbre du mois qui est le noisetier cette fois-ci. C'est un petit arbre. Moi,
absolument.
Je le vois toujours comme un petit arbre.
C'est un petit arbre, c'est plutôt. Alors, il peut atteindre des dimensions qu'on prête tout à fait à l'arbre. Mais c'est que souvent, la plupart du temps, il est traité en taillis, il est taillé assez régulièrement et ça fait des petits taillis de noisetier. Pourquoi j'avais envie de parler du noisetier aujourd'hui? Ben, parce que finalement, c'est un fruitier sauvage qu'on a un petit peu oublié, mais qui a été fondamental dans l'alimentation, parce que je vous le dis assez régulièrement, finalement en termes de fruits, le territoire était assez pauvre avant que les humains ne trimballent des petites graines dans leur poche. Et à ce titre, le noisetier fait figure des pionniers, des premiers qui ont nourri l'humanité. On en retrouve beaucoup déjà au néolithique dans les restes, et puis on se rend compte aussi que l'humanité à l'époque favorisait le noisetier. Il n'était pas vraiment cultivé, il n'y avait pas de sélection pour ses fruits, mais on retrouve énormément de pollen de noisetier aux environs des endroits où les humains étaient installés. Donc c'est un arbre qu'on fréquente depuis longtemps et qui a son importance depuis longtemps. Il a une particularité, le noisetier, c'est qu'il fleurit de très bonne heure. On aperçoit très peu les fleurs femelles, elles sont pourtant très jolies, mais il faut vraiment s'approcher, voire prendre une loupe. Par contre, il y a des fleurs qu'on voit beaucoup, enfin c'est pas les fleurs, c'est un ensemble de fleurs, ce sont les chatons. Alors les chatons du noisetier, ça on les voit énormément. Vous avez compris par ma description que les fleurs sont séparées sur deux organes différents, mais sur le même individu. Donc voilà, ces fleurs de noisetier, pourquoi j'en parle, c'est parce qu'elles sont assez singulières. Elles arrivent très très tôt et on voit assez régulièrement des noisetiers fleurir, des fois à partir de la fin décembre, janvier. Vous avez ces fameux chatons mâles qui apparaissent sur les taillis de noisetiers. Ça permet assez facilement de les reconnaître. Ce sont des petites feuilles simples, assez pointues, un peu lancéolées. Voilà pour la description de ce petit arbuste.
Juste le chaton, en ce moment on trouve. Il n'y a pas des chatons de noisetier en ce moment qu'on trouve? Enfin, c'est la deuxième. J'ai pas bien compris ton explication des deux fleurs. Est-ce que tu pourrais reformuler juste une seconde?
Alors là, tu me mets dans l'embarras parce que j'ai jamais observé de chatons de noisetier au mois d'octobre.
J'ai cru que c'était ça, tu sais, comme ça. Ça fait 5 cm, c'est assez rond et c'est assez. Et moi, je pensais que c'était ça, les chatons de noisetier.
C'est ça, mais t'en as vu ces temps. Moi, je pensais un peu plus tard. Il me semble que sur mes noisetiers, ils apparaîtront quand il fera plus froid. Plus tard dans l'hiver.
C'est ça.
Je crois pas.
Mon informateur de l'Escandorgue du week-end dernier s'est trompé.
J'ai une petite question, Tanguy. Tu dis que c'est les hommes qui ont amené les graines. Quand on plante une noisette, on obtient les fruits qu'on obtiendra sur l'arbre seront les mêmes. Il n'y a pas de perte de. Ça se greffe pas un noisetier.
Si on a greffé le noisetier et on a maintenant des variétés de noisettes qui sont sélectionnées parce qu'elles sont plus grosses, plus productives. Comme. Mais c'est une sélection qui est assez tardive, qui doit dater du 16e où on a commencé à sélectionner la noisette. Mais avant ça, par semis, on obtient dans tous les cas par semis une noisette qui est tout à fait consommable. Elle va varier en termes de taille, peut-être de production, mais on aura dans tous les cas un fruit tout à fait acceptable. Et comme c'est un arbre qu'on traite beaucoup qui se prête assez, qui fait beaucoup de rejets de pieds et qui tend vers le taillis, c'est un arbre qu'on greffait peu. Après, on trouve dans des vieilles fermes, on retrouve encore des noisetiers greffés sur un tronc unique et qui étaient là, bien évidemment, parce qu'il y avait une sélection fruitière. Hein. Mais cette sélection fruitière, elle arrive très tardivement, alors que cette noisette, c'est une variété qui était déjà présente sur nos territoires avant qu'on parte vraiment en culture, si je puis dire, de ce temps du néolithique où faut pas croire que les gens du néolithique n'étaient pas cultivés, ils favorisaient certaines essences. Et ils avaient une culture aussi, mais c'était pas une culture de la terre, c'était pas une culture de la céréale quoi qui est arrivée après. Et donc parmi ces fruitiers un petit peu perdus qu'on retrouve donc dans les habitats néolithiques, le noisetier fait une figure importante avec la mélange, avec le gland. Voilà, dont je parle souvent, et c'est en ça qu'il faut le différencier d'arbres qui sont arrivés ensuite, après, en fonction des migrations, et qui sont tous nos arbres fruitiers modernes, mis à part la pomme, sont arrivés après migration.
D'accord.
Et la culture de la noisette actuellement, est-ce que c'est aussi sur taillis ou on la conduit autrement ?
Alors en fait, en France, on produit très peu de noisettes. Hein. L'essentiel de la production aujourd'hui doit être réservé à la Turquie. Je pense que c'est eux les grands producteurs de noisettes. En France, je pense que ça se compte en dizaines d'hectares, la noisette. Je ne sais pas comment ils sont conduits. Ici, dans le paysage, je connais pas du tout de producteurs de
noisettes.
Moi non plus,
j'ai jamais vu de production de. Je connais des noix autour de Grenoble. J'ai vu une noisette raie. Je sais pas comment on dit, mais j'en ai jamais vu.
On dit une noisette raie très sûrement.
D'accord, okay, ouais.
Très sûrement. Je sais qu'il y en a quelques-unes dans le Sud-Ouest. Parce que Evelyne Leterme, qui gère le conservatoire régional d'Aquitaine, pour ses divers travaux de paillage et d'expérimentation de paillage pour conserver l'humidité dans le sol, enfin je vous ai déjà parlé du paillage, elle avait utilisé des coques de noisettes. Mais à savoir si l'entreprise importait des noisettes de Turquie ou est-ce que c'était de la production locale, je n'ai pas l'info. En tout cas, en termes de production, voilà, c'est très très peu en termes de surface en France, c'est quasiment complètement oublié. Par contre, les noisetiers sauvages produisent des noisettes. Je vais souvent visiter les terrains, les gens me disent il y a des noisettes et puis elles tombent. Bien souvent, elles ne tombent pas, mais elles sont très convoitées par nombre de non-humains. Par exemple, les écureuils, mais beaucoup d'oiseaux aussi qui consomment les noisettes. Et donc, si vous n'êtes pas le premier sur le site, vous n'en trouverez pas. Bien souvent, c'est ce qui se passe. En tout cas, moi, je les vois souvent grossir et tout, et je peine à en récolter quelques-unes pendant mes promenades parce que elles sont très convoitées, ces noisettes. Et elles l'ont été de tout temps.
J'ai une bonne technique. Moi, mes noisetiers qui sont des taillis sauvages au-dessus du ruisseau ont l'avantage des noisettes. Comme le ruisseau, quand elles tombent, le ruisseau est assez un tout petit courant. Les noisettes qui sont bonnes tombent au fond du ruisseau et celles qui sont pas bonnes s'en vont. Donc je suis sûr que celles que je ramasse au fond dans le lit du ruisseau en été sont comestibles et elles sont un petit peu à l'abri des rongeurs qui arrivent pas à aller les chercher.
Ah voilà, c'est une technique, vous pouvez faire des bassins en dessous de vos noisetiers. Merci Kalos.
Sinon tu repères la noisette qui est bonne, tu sais, c'est celle qui a vraiment perdu tout son petit chapeau.
Elle ne colle pas à la corolle, je vais dire un mauvais mot, je suis pas un arbre.
Oui, je sais pas comment on dit. Elle s'est détachée de son.
Voilà, si elle se détache bien, si elle se détache pas, c'est que généralement elle est pas bonne, elle est vide ou.
Et si on les voit beaucoup en taillis, c'est qu'on utilise le bois, j'imagine.
Alors le bois a été très utilisé, on en faisait des manches d'outils entre autres, c'était un bois très souple. Je me souviens quand j'étais petit, je voulais fabriquer mon arc pour aller à la chasse dans les bois et on me disait va prendre du noisetier, mais sauf qu'à l'époque j'avais pas une bonne connaissance et que j'ai jamais trouvé le fameux noisetier, je demandais à tout le monde mais j'étais sur le plateau et il y avait peu de noisettes là-haut. Et finalement je l'ai beaucoup plus tard, j'ai pris conscience de et qu'effectivement c'est un bois très souple, donc qui a été utilisé pour ce qui est des choses un peu manche d'outils et puis pour des fouets et surtout chez donc des pratiques un peu plus ésotériques. Il y a un folklore assez puissant autour de la noisette, et donc les sourciers par exemple travaillent avec du bois de noisetier, leur branche, la branche de sourcier est faite de noisetier.
Ce qu'on appelle le coudrier souvent, pour les sourciers disent du coudrier, est-ce que c'est le noisetier, c'est le même? Je crois que c'est le même.
Alors le coudrier c'est un autre nom du noisetier, c'est ça, voilà. Qui était assez commun.
Hein, j'avais entendu dire
en Cévennes, on disait pas mal coudrier.
Moi, j'ai toujours entendu dire les sourciers que c'était une baguette de coudrier. Est-ce que c'était pour frimer un peu, que je connaissais pas le mot, mais ils disaient pas noisetier, ils disaient coudrier. Je crois que c'était voilà, mais je sais que c'était du noisetier. Quoi.
Oui, alors c'est un terme qui était. On dit indifféremment coudrier ou noisetier. Bien évidemment, les gens connaissent plus l'appellation noisetier, mais c'est exactement la même chose. D'accord.
Parce qu'ils sont plutôt du genre, enfin les noisetiers sont plutôt du genre à se localiser vers de l'eau, non? Ils sont plutôt versant nord, frais.
Ils aiment le sol frais, mais pas les fonds de. Non. Il aime parce qu'il a, il va avoir besoin de lumière. Donc ça veut dire qu'on va le trouver plutôt sur des sols frais, dans les interfaces, dans les bordures, dans les bordures forestières. Une fois qu'à l'ombrage des chênes, le noisetier est pas très heureux. C'est plutôt une essence quand même de lumière. Qui se plaît bien dans la haie. Qu'il faut pas oublier si vous plantez des haies. On va en reparler pas mal de fois. C'est notre thématique de l'année. À ce sujet, je voulais aussi attirer votre attention sur un noisetier un peu particulier qui s'appelle le noisetier de Byzance et qui a une meilleure résistance si vous êtes justement sur des endroits, parce que il lui faut un sol pour le noisetier commun. Il est favorisé par les sols frais. Le noisetier de Byzance, que les botanistes appellent Colurna, Corylus Colurna. Il est plus résistant et il est intéressant pour des plantations. Et il fait également des noisettes qui sont sympas. C'est le noisetier de Byzance qui est peu connu et que je vous invite, si vous êtes plutôt sur des projets de plantation, à prendre connaissance, parce que chez nous, le noisetier, c'est pas évident de l'installer partout. Cela étant, dès que vous êtes en milieu forestier, on en trouve souvent à partir du moment où le sol est un peu frais et profond.
Oui, qu'est-ce que tu appelles un sol frais justement? Comment tu reconnais? C'est un sol assez humide,
C'est un sol assez humide qui a des capacités de rétention en eau. Ce qui fait que par exemple sur les plateaux, on trouve rarement du noisetier. Il faudra plus aller dans les plaines et effectivement sur des versants. Mais l'ombre forestière peut suffire à maintenir un sol frais. Mais c'est souvent par sa texture quand on parle de sol frais, c'est pour l'opposer à des sols qui vont être très séchants, comme des sols sableux.
Merci beaucoup.
Moi, j'utilisais le noisetier. Donc, chez moi, il est mélangé avec des lauriers qui, comme ça, ils arrivent à se trouver un équilibre. C'est frais parce que le ruisseau est pas très loin, je pense, parce que la ruche étant pas un sol très frais, réputé comme frais, mais j'arrive à avoir quelques noisetiers qui survivent sans entretien au bord du ruisseau, mélangé avec des lauriers. Et je crois que c'était assez utilisé aussi en vannerie. C'est un arbre qui va bien, c'est un bois souple et.
Pour la structure surtout. Oui. Ouais, on l'utilise beaucoup sur la structure de vannerie. Pas tant pour tisser la vannerie elle-même, mais pour fabriquer la hanse du panier, souvent est faite de noisetier. Justement, grâce à cette souplesse qui garde, même quand on est sur des sections un peu importantes, vous pouvez vraiment le ployer. Ça permet de faire de très très belles constructions type vannerie, effectivement. Et oui, alors je rebondis, le laurier a à peu près les mêmes exigences de sol que le noisetier. On est vraiment chez des copains, là, Laurus nobilis. Et dans certaines stations, du laurier, vous en avez. Il est même parfois envahissant quand vous avez un sol frais. Ce qui peut être le cas en Méditerranée, effectivement, dans les ripisylves, mais pas que. Voilà pour ce petit focus sur le noisetier. On va passer à la première petite pause musicale. Alors, je me suis amusé suite à l'émission du mois dernier, où j'ai fait un petit focus, là, comme si soudainement le monde se réveillait parce qu'il avait perdu son ministre et se disait « Oh, mais vraiment, il faut sauver la planète. »
Le ministre de l'écologie.
Et donc j'ai pas mal parlé de ça durant la dernière émission. Et là, en faisant mon choix de pause musicale, j'ai eu envie en fait de montrer que finalement ça fait longtemps qu'on alerte, en tout cas qu'il y a des lanceurs d'alerte. Et je vous ai sélectionné une première chanson qui est de Jean Ferrat, qui date de 1961 et qui fait des projections sur les 50 ans à venir. Vous allez voir que ce monsieur avait des visions.
Que restera-t-il sur la terre pendant 50 ans, on empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures, que sais-je encore, le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps. Enfants, enfants, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?
Et voilà, merci Monsieur Ferrat. Restera-t-il un chant d'oiseaux pour les enfants des temps nouveaux? Ben voilà, on est 50 ans après la chanson, un peu plus. Et puis, ben, si vous suivez un petit peu l'actualité de l'écologie, vous avez dû voir passer ces derniers mois qu'on avait perdu, j'ai plus le pourcentage exact, mais enfin des quantités immenses de vie dans les haies et dans les bocages, et les oiseaux manquent un peu à l'appel. Donc voilà, ça a été dit il y a 50 ans et aujourd'hui donc on en parle beaucoup. Alors ce qui est formidable, c'est que aujourd'hui on en parle, tout le monde est au courant, les entreprises sont toutes de vert vêtu, les politiques aussi. Mais en fait, quand on se dans le discours, quoi, mais quand on regarde vraiment dans ce qui se fait, j'ai l'impression quand même que rien ne change. Enfin, c'est mon sentiment. Je ne sais pas s'il est partagé autour de cette table.
Alors, à ce propos, je peux mettre mon grain de sel, puisque je suis le délégué communal de ma petite commune d'Olmette-et-Vilquin au PCAET, le plan climat air énergie territoire, qui est donc c'est pour le pays, c'est les trois com-com de Gignac, Clermont et Lodève, qui se penche sur les 50 ans à venir l'énergie au sens très large, c'est-à-dire consommation, production, puisque on a au niveau régional, on voudrait être un territoire à énergie positive, c'est-à-dire en produire plus que ce qu'on en consomme. On voudrait, enfin il y a des vœux pieux, donc nous avons, j'ai eu des réunions avec, on est plus ou moins des conseillers municipaux des trois com-com, et on discute de ce qu'il faudrait qu'on fasse et de ce qu'on va nous obliger à faire plus ou moins. Alors j'ai vu évoluer assez rapidement il y a quelques années encore, c'était un peu, ça ennuyait un peu les gens, on avait un peu autre chose à faire que ça. Et puis c'est vrai que depuis récemment, les gens, donc c'est des gens des villages, puisque c'est des conseillers municipaux, c'est des gens qui représentent leurs administrés. Voilà, ils sont tout d'un coup, je les ai vus beaucoup plus concernés, et ils seraient des fois même plus vindicatifs à l'égard de la société pour faire évoluer les choses rapidement que ce qu'on nous demande. Et puis il y a des magnifiques bureaux d'études qui sont certainement grassement payés pour nous faire des études sur qu'est-ce qui est, donc, mais on commence demain. Jusqu'à présent, on en est là. C'est-à-dire qu'on sait qu'en 2030, il faut qu'on ait réduit de 45% notre consommation et qu'on ait augmenté notre production de 30%. Excusez-moi, j'ai oublié les chiffres. Mais donc, il y a des courbes, il y a des études. Ces gens-là, je dis, font des études, des rassemblements d'informations, des croisements d'informations. C'est très intéressant, mais la courbe, elle commence demain. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et il y avait avant un PCET. Il devait pas y avoir l'air dans le truc, je crois, c'est ça. Donc voilà. Alors le PCET avait des buts à faire en 2030. Et puis le PCAET a des objectifs pour 2040, 2050. Mais le problème, c'est que donc le PCET partait à un point, on va dire, un point zéro. Et puis, normalement, ça devait commencer à descendre. Et puis là, comme on a fait un nouveau plan, mais le nouveau plan, c'est maintenant le point zéro. Et puis après, ce sera demain le point zéro. À partir de là, il va falloir qu'on descende. C'est ça qui m'inquiète un peu. Les politiques sont bien, mais c'est comme ceux qui voudraient le faire en régime et qui le font jamais. Je commence demain, je commence demain à faire mon régime. Ça me désole un peu parce que les idées qui sont proposées sont certainement intéressantes. Mais on va les mettre en application. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il faudrait qu'on ait commencé hier et que ça bouge un peu plus, quoi.
Bah, d'ailleurs, hier, il y avait je sais pas si vous avez entendu aussi, au niveau actuel, il y a eu le, je sais pas combien dième rapport du GIEC. Qui nous dit, ça y est, c'est bon, on est bon pour les 3 degrés en 2050, puisque personne n'a rien fait. Et hier, à France Inter, il y avait un débat. Et, il était intéressant, quoi. Ça parlait des petits gestes et des grands gestes, des grandes décisions. Moi, je trouve, pour revenir à la chanson de Jean Ferrat qui parle de nos enfants, ce que je conclue, moi, c'est que c'est dès maintenant, on le voit, je pense que c'est aussi ça qui fait que les élus se mobilisent un peu plus, les petits élus, parce qu'ils commencent à voir la sécheresse, ils commencent à voir des conséquences locales. C'est même plus pour nos enfants qu'il faut le faire, je pense.
Dans nos EHPAD, si on n'a pas de clim, qui consomme beaucoup d'électricité, nos anciens, ils commencent à souffrir un peu fort. Il a fait 2,4 degrés de plus en moyenne cet été à Puechabon, en relevé par rapport à l'année d'avant. Ça fait beaucoup.
Bon, voilà, ça devient beaucoup. Tangible.
Voilà, ça devient donc palpable. Il y a des gens qui bougent. Mais c'est vrai que là, il va falloir soit donner des possibilités localement de faire des choses, soit qu'au niveau national ça bouge un peu plus vite. Mais c'est vrai que tous ces programmes ne sont pas électoraux ni électoralistes. C'est un peu ce qu'on leur reproche, c'est que ça fait pas rêver. La décroissance, ça fait pas rêver, et pourtant il va falloir qu'on y arrive, sinon ça fera pas.
Voilà, c'est un petit peu à ça qu'on va vous inviter dans la suite de cette émission. On va passer à ce qui se fait déjà, parce que finalement ça c'est important aussi. On peut faire des choses, on en fait, il y en a déjà qui ont commencé. C'est pas forcément attendre sur son fauteuil que les politiques prennent des décisions, c'est aussi nous se mobiliser, et puis par nos choix aussi de consommation. On va en parler parce que vous avez ouvert avec un ensemble de producteurs, d'exploitants agricoles du territoire, une nouvelle boutique qui met en avant ses produits. On va parler de tout ça, on va parler de production locale. Avant ça, je voulais faire on a une petite chronique habituellement qui s'appelle « Ce mois-ci au verger ». Je vais la faire vite parce que je sens que vous avez plein de choses à dire et qu'on va encore dépasser le compteur horaire de l'émission.
Explosion de timing.
Ce mois-ci au verger, non, c'est pour. On s'approche doucement vers les saisons de plantation. Cette année, à Pays Arbres, je voulais vous informer de ça, on va travailler de plus en plus sur la haie, c'est-à-dire d'accompagner aussi bien des individuels que des collectivités ou des exploitants agricoles dans la reconstruction et la réinstallation de haies, donc aussi bien autour d'un petit pavillon que vous avez fait construire que autour de votre vigne ou de votre verger. On est promoteur, on est opérateur de la haie, on s'approche de plus en plus de ce projet-là. C'est un projet qu'on réfléchit depuis 2 ans maintenant. La région nous pousse pas mal à prendre un petit peu le taureau par les cornes, si je puis dire. Pour notre petite structure, c'était un peu compliqué de monter ça, mais on y est. Donc pas encore cet automne, même si on accompagne déjà des projets cet automne. Le gros des plantations se fera en 2019. C'est un projet qu'on monte en concertation et en collaboration avec la FRCIVAM parce qu'on avait besoin un petit peu d'aide sur le montage technique et financier de l'opération. Mais voilà, on va devenir opérateur de la haie officiellement pour le département de l'Hérault à partir de 2019. Donc c'est l'occasion pour moi de faire déjà un peu de mon travail, si je puis dire, et de vous inciter à replanter des haies en favorisant un maximum, et ça j'en parle régulièrement, des essences de pays, des essences qui sont acclimatées, des écotypes qui correspondent à votre écosystème. Planter local, planter beaucoup, c'est vraiment un départ vers un avenir pas trop désertique.
Oui, tu conclus bien, on y revient à cette histoire de changement climatique. Ça a aussi cette fonction-là, la haie dans le paysage. Retenir les sols, lutter contre l'érosion éolienne, apporter de la fraîcheur, apporter de l'humus sur le sol. C'est aussi ça, adapter l'agriculture et faire en sorte que qu'on puisse manger quelque chose demain, quoi. C'est... Oui, donc oui, la haie joue quand même son rôle.
Et cette année, les arbres qui n'étaient pas à leur place, ils ont souffert vu le peu d'eau qu'il y a eu que le ciel nous a donné pendant l'été. Les arbres qui n'ont pas été arrosés et qui n'étaient pas des essences adaptées, on en a vu souffrir. Il y en a quelques-uns qui sont pas.
Ah oui, on en a perdu. Voilà, derniers étés, on perd des arbres, voilà. Très clairement. Même des arbres qui sont tout à fait adaptés, mais qui se sont installés dans une pente où ils ont très peu d'accès à l'eau, y a le stress hydrique, quand il se répète comme ça d'année en année, va faire périr certains arbres, ça très clairement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'orienter vers des essences locales et se faire accompagner pour réinstaller des haies. Ça suffit pas forcément d'aller chez un horticulteur et de prendre des essences qui vont, pour 80%, vont être très exotiques, qui vont pas favoriser la biodiversité locale. Voilà, c'est fantastique. Alors quand vous regardez un petit peu les petits pavillons, il y a 80% des haies qui sont constituées avec du photinia red robin, là, qui est très beau au printemps parce que les jeunes pousses sont d'un rouge vif. Mais alors, ça doit être 80% des haies de petits pavillons. C'est dommage parce que cet espace-là n'est absolument pas une réserve à biodiversité. Alors que si vous faites la même chose avec du laurier éteint, vous allez obtenir quelque chose qui va déjà être beaucoup plus intéressant. Et puis voilà, mélanger des essences, éviter la monoculture. C'est pareil aussi pour les haies. Préférer des haies diversifiées avec des essences à feuilles caduques, à feuilles persistantes. C'est en plus, même pour vous, c'est un enchantement. Ça change de couleur tout le temps. Il y a des fleurs, c'est étagé dans le temps. Voilà, faites-vous plaisir, plantez des arbres.
Et mettez des arbres fruitiers aussi dans votre haie. C'était la petite opération promotion, mais on vous tiendra au courant au fur et à mesure, parce que ce projet, voilà, il a été assez long à venir, mais là il est vraiment bien parti et on vous en reparlera. Il sera aussi présent, je pense, dans notre programmation de la petite fête de l'arbre qui viendra en mars prochain. Voilà, ça va se développer, et donc Tanguy sera l'interlocuteur sur le terrain de vous tous et vous toutes. Tu voulais dire quelque chose, Kalos?
Oh non, que j'essaye de cultiver les mecs, que en effet le laurier éteint, ce qu'on appelle la viorne ici, et puis j'ai ça, du cornouiller, ces arbres-là n'ont pas l'air d'avoir souffert autant que même les lilas, qui sont quand même pas une plante. Les lilas avant la pluie, là, il y a quelques jours, ils étaient un petit peu, ils battaient de l'aile un petit peu. Pourtant, c'est des trucs qui sont assez acclimatés, mais j'ai quelques. Il y a des plantes, l'orange du Mexique qui fait une jolie fleur, et lui n'a pas l'air de souffrir de la sécheresse. En tout cas, ils sont plantés depuis longtemps, mais il n'avait pas l'air de trop souffrir. Pourtant, je pense que
c'est un exotique. Oui.
C'est un exotique, voilà. Je ne connais pas les origines. Moi, je te parle de ce qu'il y a autour de chez moi, ce qui pousse. Ça, c'est moi qui l'avais mis il y a une quinzaine d'années. Et il a l'air de prospérer sans trop souffrir. Mais c'est vrai que les petites haies d'arbustes locaux résistent quand même pas mal. Et elles sont remplies d'insectes, d'oiseaux et de choses comme ça. Et elles ont l'air d'y trouver leur bonheur.
Leur compte, oui, oui. Eh bien, écoute, maintenant que tu as la parole, bah oui. Tu vas la garder, Kalos, parce qu'on va commencer à t'interroger. Et on en parlait hors studio avant de commencer. Tu es producteur de spiruline.
Oui, alors voilà, je vais faire rapide parce que je peux en parler jour et nuit pendant très longtemps.
J'en suis sûr. Alors, mais par contre, je voulais que tu réinsistes sur ce que tu nous disais avant, à savoir que on parle souvent de l'évolution, de comment c'est arrivé, ouais. Tout ça, de ces plantes qui commencent à coloniser la planète et qui vont petit à petit permettre la vie, les autres vies finalement. Hein, c'est parce que les plantes et les champignons étaient là avant. Et puis avant que les plantes et les champignons fabriquent de la lignine, qu'ils soient capables de fabriquer des structures à l'extérieur tout en gardant le lien à l'eau, parce que finalement c'est la soupe universelle primaire. Et la soupe primaire. Toute la vie était dans l'eau. Et moi, je croyais un peu naïvement, ou je m'étais pas renseigné assez d'avant pour préparer cette émission, que la spiruline était une algue. Et tu m'as dit pas du tout. Alors vas-y, dis-nous un peu plus sur d'où ça vient, cette spiruline.
La spiruline, c'est une cyanobactérie. J'utilise assez peu le mot parce que les gens entendent cyanure et bactérie et ça leur donne pas envie d'en manger. Alors c'est pas ça. Cyano, c'est pour cyan, la couleur bleue, puisque c'est une algue bleue, bien qu'elle soit verte, elle est considérée dans les algues bleues parce qu'elle contient une protéine de couleur bleue. Mais donc les cyanobactéries sont les premiers organismes de la planète qui ont C'est des organismes qui sont les premiers à faire de la photosynthèse. Est-ce qu'ils ont créé la photosynthèse? Je ne sais pas si le mot est adapté. Mais voilà, il y a donc les bactéries se reproduisent par division cellulaire. C'était a priori les premiers les organismes sur la planète. Et puis, vers 3 milliards et demi d'années, donc ça fait, il y a 3 milliards et demi d'années, ça fait donc vraiment longtemps,
un bail.
Sont apparues des bactéries qui se sont mis à se servir de la lumière pour se reproduire, c'est-à-dire à faire de la photosynthèse. C'est-à-dire que c'est l'apparition de la chlorophylle. Alors, je suis pas généticien, je suis paysan, donc je vais essayer de pas dire de bêtises, quoi. Mais voilà, les premières plantes qui ont fait de la photosynthèse, qui se reproduisaient toujours de manière par division cellulaire, c'est les cyanobactéries, c'est la spiruline et c'est 600 cousines dont 130 variétés comestibles, juste pour à la louche comme ça. Donc, et on a des fossiles qui ont 3 milliards et demi d'années de ces cyanobactéries. Il y en a une que vous connaissez mieux que la spiruline. C'est celle qui pousse dans vos piscines quand vous mettez pas de sel ou pas de chlore dans l'eau. C'est la chlorella, c'est une autre cyanobactérie, c'est une monocellulaire qui se reproduit, qui est capable de se multiplier très rapidement quand les conditions sont bonnes.
C'est celle qu'on appelle la lentille d'eau?
Non, non, non. La chlorella, c'est vraiment. Alors, c'est facile. C'est une algue tellement petite que pour savoir si t'en as dans l'eau, tu passes à travers un filtre à café. Si ton eau, elle est verte en dessous, c'est de la chlorella parce qu'elle passe à travers le filtre à café. Pour dire qu'elle est toute petite. Quoi.
Oui, tout
la spiruline, elle reste dans un filtre à café. La spiruline, c'est une petite algue qui a une forme de spirale, d'où son nom. Qui fait un dixième de millimètre de long et un centième de diamètre à peu près. C'est une petite spirale, ça fait 4-5 spirales généralement, elle peut s'allonger un peu dans certains cas particuliers. Voilà. Et mais donc cette petite spirale, par division cellulaire, elle s'allonge, le ressort s'agrandit et puis elle se casse en deux et chacune se multiplie comme ça. L'avantage de ces algues-là, si on les a cultivées, c'est parce que la spiruline contient toutes les vitamines, toutes les protéines et tous les minéraux qu'on connaisse. La seule chose qui n'est pas dedans, c'est de la vitamine C, qui a dû apparaître dans la vie un peu plus tard. Et surprenamment pour une algue, elle ne contient pas d'iode, ou très très peu d'iode. C'est-à-dire, mais elle est capable de contenir tous les autres minéraux. Évidemment, elle les contient si elle les trouve dans son milieu de culture, dans son milieu de vie. Elle ne va pas fabriquer du fer si on ne lui en donne pas. Elle ne va pas fabriquer du sélénium ou des oligo-éléments si elle n'en trouve pas. Par contre, elle est capable de fabriquer toutes les vitamines et toutes les protéines.
Parce que c'est ça, non? À l'origine, elles ont ces algues-là, ces cyanobactéries, elles ont épuré le milieu.
Alors, voilà, la spiruline, elle pousse dans un milieu, pour faire un tout petit peu de chimie, elle pousse dans un milieu extrêmement basique, extrêmement alcalin. Elle est très bien dans un pH 10,5-11, dans lequel 99% des organismes aquatiques sont morts. C'est pratique, c'est que moi, dans mes bassins, il y a généralement que de la spiruline, il n'y a rien d'autre qui arrive à survivre. C'est très pratique pour cultiver et avoir une culture propre. Et ça, c'est elle qui sécrète des choses qui font monter le pH comme ça.
C'est pas toi qui le fais artificiellement.
Alors, elle pousse, justement, la chlorella, elle pousse dans de l'eau de pluie, par exemple, ou dans de l'eau comme ça, à pH 7. La spiruline ne s'installe pas. Il lui faut un pH un peu basique pour démarrer. C'est pour ça que ce que je rajoute dans l'eau d'ici, c'est du bicarbonate de soude. Et là où elle pousse à l'état naturel, c'est là où il y a des strates de carbonate ou de bicarbonate de soude, c'est-à-dire le lac Tchad et ses environs, c'est-à-dire la Camargue. La Camargue, où il y a un peu dans l'eau de mer, il y a du bicarbonate, il y a aussi du chlorure de sodium, donc du sel, etc. S'il y a trop de sel, la spiruline ne pousse pas. Mais avec un peu de sel et un peu de carbonate et de bicarbonate de soude, elle arrive à s'installer. Alors en Camargue, on trouve des taches qui, on suppose que la spiruline qui pousse en Camargue arrive d'Afrique de l'Est avec les flamants roses. En migration. Et le bec de flamant rose, c'est le meilleur filtre qu'on connaisse à microalgues. C'est-à-dire que quand le flamant rose a la tête dans l'eau, en fait, il pompe avec sa langue. D'un côté, il rentre de l'eau avec des algues et de l'autre côté, il sort de l'eau filtrée et le flamant rose se nourrit comme ça. Et donc, dans le bec d'un flamant rose qui a voyagé, il y a quelques spirulines qui sont coincées dans ces, je vais appeler ça des fanons pour donner l'image, c'est pas tout à fait le mot, mais c'est, voilà. Et donc, quand il remet la tête dans l'eau en Camargue pour boire et pour manger, il sème de la spiruline. Et on trouve des petites taches comme ça. Et il y a quelques années, il y a 20 ans, la spiruline, on pense qu'elle mourait tous les hivers. Et maintenant, on commence à voir des endroits où elle survit. Elle arrive à passer l'hiver. Je pense qu'elle va devenir endémique à la Camargue bientôt, la spiruline. C'est sympa. C'est une bonne nouvelle, quoi.
Et alors, ça fait longtemps qu'on consomme de la spiruline?
Alors, on avait les... la spiruline, ça a été redécouvert, on va dire, puisque ça a été redécouvert fin des années 60 par des Belges et des Français qui cherchaient du pétrole, qui faisaient de la prospection pétrolière dans le Sahel. Et à l'époque, il y avait une grosse famine dans le Sahel et ils tombaient sur beaucoup d'habitants locaux qui souffraient de malnutrition. Et puis, vers les bords du Tchad, ils sont tombés sur une tribu qui avait l'air en bonne santé, qui avait aucun signe de malnutrition, c'est-à-dire le gros ventre et les bras, bref, les enfants étaient en bonne santé. Et ils ont dit, mais vous mangez quoi? Ils ont dit, ben nous, on va dans le petit marigot là-bas et on ramasse le dié. C'est-à-dire, ils ramassaient l'eau et ils versaient ça à travers une sorte sur du sable. L'eau traversait le sable et il restait une petite couche verte. Et il y avait un biologiste dans l'eau, un Belge, qui a analysé ça et qui a dit, ben c'est de la spiruline. Alors ça avait été décrit par des scientifiques, au joyeux temps des colonies, en 1930, il y avait une scientifique française qui avait dessiné, qui avait regardé l'eau des marigots, qui avait dessiné, qui avait donné son nom à Arthrospira platensis, voilà le nom latin de la spiruline, et elle avait dessiné ça, ce qu'elle voyait dans son microscope, elle avait décrit sans l'étudier pour autant, elle avait été juste décrite. Et ce Belge, lui, a analysé, puis c'était un peu plus tard, il a analysé les capacités, les qualités nutritionnelles, et c'est là qu'il s'est aperçu que c'était une plante qui avait 70% de protéines, et ça, la plante la plus riche qu'on connaissent, c'est le soja, à part la spiruline, c'est le soja qui a 35% de protéines, et la viande, la meilleure des viandes, en a 23%, c'est la viande de bœuf. Voilà, donc en matière de... Et l'avantage de la spiruline, c'est qu'il y a les 21 protéines alimentaires principales sont toutes dedans. Acides gras essentiels, tous les acides gras essentiels, voilà, sont dans la spiruline à l'état naturel.
Donc
on est vraiment sur une panacée, quoi.
Et ben, si c'est l'ancêtre aussi bien des animaux que des végétaux, puisqu'elle était sur Terre avant même la séparation des animaux et des végétaux, qu'elle contienne aussi bien les vitamines et les protéines qu'on trouve dans la viande que dans les végétaux, ça paraît logique. C'était l'ancêtre de tout le monde. Et puis après, suivant l'évolution, les animaux ont eu besoin de différentes choses et les végétaux de différents autres, ils en ont gardé, éliminé, mais qu'on trouve l'ensemble de tout ce qui existe en matière de nutrition, enfin de vitamines et de protéines, nous on s'en sert pour les manger, mais voilà, dans les organismes, ça paraît logique, quoi, ça paraît logique.
Mais alors, il y a un truc, elle produit elle-même la protéine, ok, mais j'ai cru comprendre que dans ce que tu disais, elle ne contenait de vitamines que ce qu'il y avait dans son
minéral.
Des minéraux, c'est-à-dire, elle fabrique les vitamines et les protéines par photosynthèse, okay. En utilisant aussi les minéraux. Le noyau d'une protéine, c'est toujours de l'azote. Donc, elle a besoin d'azote. Justement, il y a 3 milliards d'années, l'azote sur Terre, il n'y avait pas d'atmosphère. Justement, en revisitant la nouvelle expo, le nouveau musée de l'ODEV, je me suis éclaté de voir à quel moment l'aspirine apparaissait, parce que j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Et on voit quand les premiers animaux commencent à vivre, etc. Donc, et on voit là, dans la soupe primitive, quand apparaissent les cyanobactéries, justement. Et donc, à l'époque, il n'y a pas d'atmosphère. Les cyanobactéries qui ont commencé, parce qu'en mangeant du gaz carbonique, elles dégagent
la photosynthèse. Quoi.
Voilà, elles ont fabriqué, donc elles ont permis, c'est elles qui ont commencé à faire l'atmosphère autour de la planète, qui ont permis l'évolution des autres. Quoi.
Et du coup, là, de ta petite visite au musée, qu'est-ce qui vient juste après les cyanobactéries, du coup?
Alors après,
petite interrogation surprise.
Ça part large parce que justement, on parle de temps très long, hein, 3 milliards et demi d'années. Après, on est seulement en centaines de millions d'années. Non, j'exagère, mais voilà. Après, les évolutions, ça a été des organismes de plus en plus compliqués. Oui. Mais au début, il y avait quelques cellules. Au début, il y a des monocellulaires, puis des multicellulaires, dont les cyanobactéries. Et puis voilà. Donc, mais l'aspirine, elle est capable de manger. Elle adore l'azote, qui est un constituant de toutes les protéines. Donc, c'est un élément principal de toutes les plantes. Elle le mange sous forme ammoniacale. L'ammoniac, et je pense qu'il y a 3 milliards d'années, l'azote qui est dans l'atmosphère actuellement sous forme de gaz était beaucoup mélangé à l'hydrogène sous forme d'ammoniac. Donc dans la soupe, ça devait être un truc assez peu agréable. L'ammoniac, ça pique le nez si vous avez l'odeur que ça. Et la spiruline, elle, est capable de manger l'azote sous forme ammoniacale. C'est une des rares plantes qui est capable de le faire, quoi.
Ok, on va peut-être quitter un petit peu ces considérations de chimiste parce que j'ai peur qu'on perde du monde en route et puis le temps avance. Ouais. Et j'aimerais que tu me parles, moi, de aujourd'hui, produire de la spiruline pour un exploitant, c'est une porte. Enfin, je veux dire, tu arrives à en vivre, toi.
Moi, j'ai eu la chance de. Je vais faire très bref. J'ai rencontré des gens qui connaissaient les qualités nutritionnelles de la spiruline et qui voulaient s'en servir à des fins humanitaires. C'est-à-dire que c'est une plante qui a besoin de très peu d'eau. C'est la plante qui a besoin du moins d'eau par rapport rapport à produire un kilo de protéines en faisant de la viande, des légumes ou de la spiruline, il n'y a pas photo, je consomme 200 fois moins d'eau que
par kilo de protéines
produite, voilà, pour que de la viande par exemple, etc. Et ça a beaucoup d'avantages comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir de la terre stérile, puisque de la terre fertile, puisqu'on est sur, donc même sur du sable ou des trucs comme ça, on est hors sol,
si on peut, dans des bacs.
Donc on peut produire dans des endroits où la terre est pauvre. Dans ces bassins, il n'y a aucune larve d'insectes qui vont pondre, puisque le pH est trop élevé pour que les larves survivent, donc pas de choléra et de maladies qui peuvent se reproduire là-dedans. Et puis avec 1 mètre carré de bassin de spiruline, on peut complémenter une famille, c'est-à-dire 2 adultes et 2 enfants. On peut faire, puisque pour simplifier, une assiette de riz et 10 grammes de spiruline par jour est une alimentation complète et équilibrée. Alors qu'une assiette de riz tout seul, eh ben, on a vite des carences et des problèmes de santé, quoi.
Alors donc, c'est vraiment un aliment à redécouvrir.
Donc
quoi.
C'est des gens qui se sont intéressés à ça. Et puis moi j'ai été le bricoleur de l'équipe. J'ai travaillé avec des scientifiques et ils avaient besoin qu'on fasse des machines à produire et à récolter la spiruline, mais des machines qui marchent sans moteur, sans énergie extérieure, des trucs simples qu'on puisse installer n'importe où dans le monde, dans des endroits où il n'y a pas d'électricité, des endroits où il n'y a pas de facilité, où on trouve pas des pièces détachées. Donc j'ai mis au point, enfin on était plusieurs, mais on a mis au point un système de très basse technologie pour produire de la spiruline. Et on a passé 2 ans en laboratoire, c'était avec une ONG suisse, Antenna Technologies, c'était à Genève. Et puis, quand on a fait analyser notre spiruline qu'on a envoyée à l'Université de Lausanne pour qu'ils nous analysent les qualités, quand on a reçu les résultats, on s'est dit, bon, vous êtes trompé, c'est pas grave, c'est beaucoup plus riche que ce qu'on pensait, quoi. Et en fait, on a renvoyé notre lot, ils nous ont dit, non, c'est pas trompé, c'est bien juste. En fait, par rapport à les seuls producteurs de spiruline qu'il y avait à l'époque, il y avait un producteur, c'était aux États-Unis, c'était des mecs qui avaient tendu ça, et ils produisaient ça pour faire du régime amaigrissant pour Américains en surpoids, pour simplifier. Donc, voilà. Et en fait, leur machine, leur système de transformation de spiruline, qui était industriel, dégradait vachement les qualités de la spiruline, alors que notre petit système à 2 balles, parce que c'était vraiment le but, c'était que ça coûte 2 balles, quoi, eh ben, on a fait une spiruline de super qualité. Et c'est pour ça que moi, ça m'a donné envie de m'installer producteur de spiruline, et qu'il y a 20 ans, on s'est installé avec Estelle, ma femme, comme producteur de spiruline. On était les premiers en Europe à faire ça. Et puis maintenant, comme ça, l'idée ne devait pas être mauvaise, et qu'on n'a évidemment pas breveté, parce que ce n'est pas notre manière de penser. Depuis, il y a maintenant en France 150 producteurs de spiruline. Et puis l'autre avantage, c'est que moi, je suis un agriculteur qui travaille avec 0,03 hectare. C'est-à-dire, ce qui me fait vivre, c'est 300 mètres carrés. J'ai besoin de 300 mètres carrés de terrain pour tirer un salaire de ma production et produire une quantité de protéines assez intéressante. Donc, en matière du temps de nos temps de surpopulation, peut-être que la culture de spiruline va permettre de produire de la protéine avec une surface assez minimale, donc ça peut être intéressant.
L'administration a dû vous faire une nouvelle case, alors, parce que ça n'existait pas des productions sur
on peut dire ça
si
comme
peu
ça,
de surface.
Voilà, exactement. Donc, je suis pas payé à la. J'ai pas de prime à la surface. Heureusement, je toucherai rien. Hein. De toute façon, j'ai jamais touché de prime. Je pense que l'agriculture. J'aimerais que l'agriculture puisse vivre sans aucune prime. J'ai compris depuis que le système avait fait pour que ce soit pas possible, mais ce serait justement parmi les gens qui montent de la bout de cette nouvelle boutique dont on va parler après, on est pas mal d'agriculteurs à dire les primes, c'est, quand on peut s'en passer, il vaut beaucoup mieux produire un peu moins, faire de la meilleure qualité pour la vendre à un juste prix et ne pas avoir besoin de primes. On essaye quand même, même si j'ai compris qu'au début je me dis j'étais contre les primes, moi j'ai eu la chance de pouvoir vivre sans, mais j'ai compris que le système était bien verrouillé et que certains agriculteurs ne pouvaient pas vivre si on leur donnait pas des primes. Ça me déprime d'entendre ça.
C'est le cas de le dire. Alors pour finir sur, pardon.
Mais juste, tu veux nous parler une minute du coup de ce petit magasin qui vient d'ouvrir, ça s'appelle Les Petits Producteurs.
Avant ça, je voudrais finir sur la spiruline, parce qu'on va après, on va plus en parler. Moi, j'ai une question quand même. Juste, je voudrais que la spiruline. Je ne sais pas si vous avez déjà croisé ça. Moi, avant de connaître Kalos et Estelle, je la connaissais sous forme de poudre, c'est-à-dire que elle était séchée, transformation industrielle, voire même en complément alimentaire type gélule. Et vous produisez une spiruline qui est fraîche et finalement, c'est assez étonnant et rare. Mais le goût est pas forcément pour beaucoup de gens, il peut être un problème. Et donc ma petite question, c'était est-ce que tu as une recette, comment vous conseillez de la préparer parce que je sais que plein de fois je l'ai goûté en tartine avec un peu de citron, de l'huile. Alors ça devient un truc super agréable finalement, alors que à la base on part sur un goût qui est pas, surtout on n'en a pas l'habitude. Et puis
ça sent un peu l'œuf quand même. Moi je trouve ça.
Voilà. Alors le système qui existait avant notre petit système de basse technologie qui était fait pour installer en Afrique et qu'on a utilisé nous, puis ça faisait très bien, c'est une machine à faire du lait en poudre. C'est-à-dire qu'on pulvérisait de la spiruline dans une tour de 20 ou 30 mètres de haut dans lequel il y a de l'air à 150 degrés. C'est des sprays, ça s'appelle du spray drying, voilà, du séchage en spray, et donc on ou un atomiseur en français, voilà, et on pulvérise en toutes petites gouttes, et ces petites gouttes dans les 20 mètres de chute qu'elles font dans cette tour d'air chaud, elles arrivent en bas, elles sont sèches. Mais par contre la spiruline, les cellules sont éclatées, donc il y a une grosse oxydation des protéines, ce qui donne mauvais goût et qui fait perdre la qualité. Nous, notre petit système de faire des paillettes, donc on faisait ça, on parle du produit sec là, de faire des paillettes. On a travaillé longtemps en laboratoire justement avec un ingénieur agro et un biochimiste pour que nos petits spaghettis qui font 2 mm de diamètre à 37 degrés, 40 degrés, c'est la température de séchage de mon séchoir, elles arrivent à sécher sans qu'il y ait dégradation, l'humidité arrive à sortir, il reste 4 ou 5% d'humidité résiduelle. Donc là on a un produit, et en faisant comme ça, déjà les cellules restent fermées, donc ça a déjà beaucoup moins de goût. Le goût est pas délicieux, toujours pas délicieux, mais ça a beaucoup beaucoup moins de goût qu'une spiruline qui a été éclatée, oxydée et surchauffée. Donc déjà notre petite paillette, ça rendait le produit moins
plus
bon,
attrayant.
On va simplifier, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais je connais la spiruline, mais c'est tellement pas bon, je peux pas en manger. Donc on en faisait des gélules décachées. Donc non seulement elle avait moins de qualité, mais c'était pas bon. Et puis nous, moi, en faisant ma petite machine à faire des spaghettis que j'avais mis au point pour cette ONG, en la nettoyant tous les jours, je mangeais la pâte de spiruline, puisque dans un spaghetti de spiruline, pour ceux qui connaissent ça, il y a des centaines et des centaines de petites spirales qui sont agglomérées entre elles et qui ont séché, quoi. Mais donc cette pâte de spiruline que je transformais moi en spaghetti, je la mangeais et j'ai commencé à l'accommoder avec un peu d'ail, un peu d'huile d'olive, un peu de trucs comme ça. Et cette spiruline fraîche, c'est ce qui l'a fait connaître un peu autour de nous, c'est ce qu'on amenait quand on allait dans une soirée ou chez des copains, parce que c'est un produit très sympa à manger. Ça a une consistance, imaginez des petits ressorts microscopiques qu'on met dans la bouche avec un peu d'huile, ça fait une consistance qui ressemble un peu à rien d'autre, quoi.
J'avais pas pris la dimension du ressort.
Voilà, c'est ouais, ça.
Je ne sentais pas non plus.
Mais c'est ça qui fait bizarre dans la bouche, c'est que imaginez que vous mangez des petits ressorts, ça ressemble un peu à un petit ressort de stylo bille, là, de stylo.
Mais quand on entend Carlos parler, ça peut faire peur. Mais en fait, je vous conseille vraiment. Bah, donc, on va faire le transfert sur le petit thème d'après, parce que Carlos, il a un grand défaut, c'est qu'il s'arrête jamais de parler. Alors, en radio, c'est problématique. Je suis obligé de le cadrer un peu. Non, pour dire que ben voilà, c'est vraiment super sympa. Donc justement, avec un peu d'huile d'olive et d'ail, quand vous l'achetez fraîche, pour moi, ça a été une découverte et ça l'a été pour beaucoup sur le territoire, parce que on a la chance quand ils sont en sortie de production de l'avoir fraîche, et ça moi je trouve ça vraiment étonnant. Donc allez-y, et on peut la trouver, donc quand elle est, tu nous diras la période où vous récoltez, on peut la trouver à la boutique paysanne. Donc il y avait déjà une boutique paysanne à Lodève qui s'appelait À Travers Champs,
qui existe toujours,
mais il y a eu de plus en plus de producteurs intéressés, il y a eu des petites divergences sur des politiques de tenir la boutique, ils ont décidé de dédoubler le groupe qui était à Travers Champs, et aujourd'hui on a deux boutiques paysannes à Lodève. Donc on a encore plus de producteurs chez qui on peut acheter directement, c'est le principe de ces boutiques, c'est-à-dire que il y a des frais de boutique liés au loyer et tout ça, mais il ouais, y a pas
je vais en parler hein. Voilà. Je pense que on est beaucoup plus fort que Super U, parce que la boutique je dis Super U, excusez-moi, c'est le supermarché local,
c'est leur faire trop de cadeaux
plus contre eux que contre d'autres supermarchés, voilà, mais voilà, donc on a, moi je suis à l'initiative de la première et de la deuxième boutique, je suis un des membres, je revendique pas la paternité, mais je fais partie des deux aventures. Bref, donc, mais ces petites boutiques de producteurs, je vais vous parler de la dernière qu'on a montée, puisque...
Alors comment elle s'appelle?
Alors elle s'appelle Au Petit Producteur, puisqu'on a tourné viré pour trouver un nom à la mode, et puis en fait on s'est dit, on est quoi? On est des petits producteurs, donc on va s'appeler comme ça. On s'appelle Au Petit Producteur, parce qu'on est des petits producteurs du coin. Et on s'est aperçu que voilà, pour nous, je pense que ce qui a fait mourir l'agriculture, c'est que les producteurs, souvent ils aiment pas vendre leurs produits, puis ils ont pas le temps. Alors ils ont confié la vente de leurs produits à quelqu'un d'autre. Et c'est ce quelqu'un d'autre qui s'est mis à faire la marge intéressante qu'il avait à faire sur leurs produits. Et donc en réfléchissant un peu, et donc ils étaient obligés de produire plus, mais ils gagnaient de moins en moins de sous. C'est à mon avis une des causes de la disparition de l'agriculture.
Paysanne,
voilà. Et alors que on s'est aperçu que mais justement après ces systèmes de distribution, il y avait de plus en plus intermédiaires, ils sont obligés de prendre des marges de plus en plus importantes. Et nous, on s'est aperçu, justement, ça fait quand même un peu plus qu'une dizaine d'années qu'il y a des gens qui ont pensé à ça, qu'on réfléchit là-dessus. On s'est aperçu que nous, si il suffisait qu'on tienne la boutique, nous, qu'on vende notre produit nous-mêmes, et ben, ça nous permettait, nous, la boutique actuellement, on prend une marge de 15%. Les frais de fonctionnement de la boutique représentent 15% du prix du produit que vous achetez. Et on espère bien, je pense qu'on va descendre en dessous, parce que avec ça, pour des histoires de fonctionnement, on va pouvoir descendre, on pense encore un peu en dessous. C'est-à-dire que quand un paysan a besoin pour vivre de gagner 1 euro avec son produit, en le mettant à la boutique, il est à 1,15 euro. Et ces 15% servent à payer le loyer de la boutique, l'électricité des chambres froides, etc., les fonctionnements. Puisqu'on n'a pas de salariés, c'est ce qui nous permet de faire une petite marge, puisqu'on est des producteurs, chacun notre tour, on vient tenir cette boutique.
Donc c'est un des trucs qui sont sympathiques aussi dans les boutiques paysannes, c'est que vous allez pouvoir rencontrer à chaque fois un producteur. Mmh. La question rituelle étant, alors toi tu produis quoi ? Bon, quand vous aurez fait le tour, vous verrez, ils sont pas 10 000 non plus, on finit par les connaître. Mais ça permet aussi de rencontrer, de prendre conscience de qu'est-ce que c'est aujourd'hui être paysan, habiter son territoire, produire. C'est des questions qu'on maîtrise pas bien finalement. Et ben ce genre d'endroit, c'est plus que faire des courses, c'est s'impliquer autrement dans ce qu'on consomme, et c'est pas rien.
Et c'est aussi encourager des démarches d'autonomie. Moi, j'entends beaucoup ça, et c'est s'autonomiser de la grande distribution, gros marchés,
nous,
etc., fixer ses prix,
etc. On le fait un peu,
etc.,
pour nous, mais on s'aperçoit qu'on est vraiment un magasin de proximité. On est vraiment un magasin de proximité. Je veux dire, on n'est pas un truc pour bobo en faisant des produits de luxe, etc. On est justement, en faisant comme ça, en limitant vraiment les frais de fonctionnement, ça nous permet d'avoir des produits de bonne qualité, parce que les gens qui vivent, les petits paysans aiment leurs produits, donc ils le font bien, ils y mettent tout leur cœur pour faire un bon produit. Et on s'aperçoit que justement, donc depuis qu'on a ouvert cette deuxième boutique, la première boutique n'a pas perdu de chiffre d'affaires, et la deuxième boutique a créé des nouveaux clients. Et il y a plein de gens qui nous disent, on n'allait pas à l'autre boutique, elle n'est pas en centre-ville, l'autre est en centre-ville, on vient maintenant. Donc on a créé, et les gens s'aperçoivent que il vaut peut-être mieux acheter parce que une côte de porc a peut-être un peu plus cher, je dis ça un exemple, mais un peu plus cher chez nous au prix d'achat qu'au supermarché dont je citais tout à l'heure, qui est le plus proche aussi. Mais une fois que ça c'est accru, mais une fois qu'ils sont cuites, une côte de porc de notre magasin, elle fait le même poids cuite que crue. Une côte de porc de poire industrielle, je suis pas sûr qu'il y a pas un peu d'eau qui est partie ensuite. Donc le prix au kilo, le vrai prix au finish, il vaut peut-être mieux.
Et c'est la même chose pour les légumes.
Je dis ça pour dire que on n'est pas c'est pareil pour les légumes. On a des produits qui sont bons, qui sont goûtus, qui sont frais. Je dis ça, on n'est pas on a beaucoup de végétariens qui viennent dans qui ont une démarche comme ça, mais on n'est pas des végétariens. On a des produits végétaliens. Je dis pas vegan parce que vegan ça fait un peu sectaire, alors que végétalien c'est une manière de s'alimenter. Je trouve ça beaucoup plus malin. Alors ça veut dire la même chose normalement à peu près. Mais voilà, on a aussi de la viande à vendre. On a du fromage, on a des yaourts, on a
du
de la miel, viande,
on
a
du vin.
On a des maraîchers. Moi je pensais il y a 20 ans, on m'avait dit mais non c'est pas possible de faire des légumes dans le Lot des Vois. Il faut faire que de la vigne ou des moutons si tu veux les travers. Bon, et on s'aperçoit qu'il y a des maraîchers dans le Lot des Vois qui font des super légumes, vraiment bon goûtu et à des prix très intéressants, donc c'est possible. Il faut rediversifier la production agricole et on y arrive si le paysan trouve son compte, et les boutiques de producteurs sont un des moyens de rémunérer correctement le paysan pour son travail.
Et du coup, vous êtes 21, c'est ça, là, dans cette nouvelle boutique?
Ça bouge sans arrêt. On est autour de 20, mais on augmente. Là, on a ouvert, on augmente. Ça remonte de plus en plus. J'espère qu'on aura une ancienne collaboratrice de Paysarbre qui va bientôt rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? On en parlera plus tard.
On va pas rentrer dans les détails des dessous de Paysarbre. Mais pour finir là-dessus, tu nous as pas dit où elle était?
Elle est deux places de la République, c'est-à-dire en face de l'office du tourisme. Bon, il n'y a rien en face de l'office du tourisme, il y a des platanes. Bah, sous les platanes au coin, on est là-bas.
Derrière les platanes.
Le Rialto, pour les vélos des voies, c'est le Rialto.
Le cinéma.
Ça a eu été un cinéma. Et voilà, on est donc dans l'immeuble du Rialto.
Et les horaires, les contacts.
Et on est ouvert de 9h à 13h et de 15h30 à 19h. Du lundi au samedi à midi. Du lundi après-midi au samedi à midi. Voilà. Et j'ai pas le numéro de téléphone en tête.
Oui, mais je pense que tout le monde va trouver.
Vous allez trouver. Vous y êtes le bienvenu et vous aurez toujours un producteur pour vous servir et qui vous parlera de sa production et de celle des autres.
Et comme vous avez entendu souvent, avec passion et avec envie de défendre ce qu'on fait soi-même Et voilà, c'est vraiment une porte vers une autre façon de vivre ensemble. Je trouve ça très important, moi aussi.
Je ne vais pas me fâcher. Il y a du miel, il y a des jus de fruits, il y a des glaces. J'essaie d'oublier personne. Il y a de la spiruline, donc il y a du pain. Voilà, il y a plein de choses. On a du bœuf, du porc,
de la bière aussi, non ?
De la bière, voilà, du vin bien sûr, des vins, des œufs. Voilà. J'espère que mes personnes.
Moi, je trouve que c'est aussi une super manière de juste de connaître son territoire. En fait, tu te rends compte qu'autour de chez toi, ben voilà, il y a 20 et quelques agriculteurs, ouais, producteurs, et tout d'un coup ton territoire prend vie. C'est plus juste l'autoroute que tu prends et puis
prendre conscience des saisons aussi. C'est-à-dire c'est le genre de boutique qu'on y va l'hiver, on y va l'été, on va pas avoir les mêmes produits, surtout côté maraîchage et production végétale. Mais c'est vachement important de prendre conscience que il faut arrêter de manger des tomates à partir de novembre parce qu'en fait il y en a plus
et que la salade est un légume d'hiver. J'ai appris ça grâce au maraîcher cet été parce que on a toujours envie de manger, mais faire de la salade dans l'eau des voies au mois d'août, c'est pas
galère.
Possible. Non. On fait de la graine de salade, mais pas de salade, elle monte tout de suite. Donc j'ai appris. Et la réponse, je l'ai trouvée bonne. Les maraîchers disent la salade est un légume d'hiver. Mangez donc des tomates actuellement et des concombres, etc. Et vous aurez de la salade. Et là, les salades viennent de revenir à la boutique et on est très contents.
C'est vrai. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, du coup, pour découvrir tout ça, rendez-vous aux deux places de la République, à l'Odève, au Rialto. Peut-être que c'est le moment pour nous aussi, Pays Arbres, de passer à notre petit agenda. Et de finir, d'aller tranquillement vers la conclusion.
On va aller doucement vers la fin. Dans les dates à retenir, dans les semaines qui viennent, le 21 octobre, on vous invite à venir partager avec nous une journée de travaux, mais de travaux tranquilles.
Bon enfant.
C'est pour accompagner le chemin fruitier de l'Odève. Ce chemin fruitier, il est chemin des Tuyères. Le chemin des Tuyères, c'est le chemin qui monte à la Vierge. Sur
en
ce chemin.
En partant de la place du Grand Soleil.
C'est ça. En partant de la place du Grand Soleil. Sur ce chemin, depuis quelques années, avec l'association, on fait quelques stages de greffe. Moi, j'ai un petit masque qui est un peu au-dessus. C'est ma campagne. Donc, c'est un chemin que j'arpente régulièrement. On a greffé toutes sortes de fruitiers sur le bord. Et là, on vous invite à une journée pour entretenir un peu tout ça, tailler un peu des genêts, faire de la place aux arbres qui se développent. C'est l'occasion de causer, de greffe, de fruitiers, de se promener, de passer une bonne journée ensemble. On partagera un petit repas le midi tiré du sac. C'est le dimanche 21 octobre. On vous donne rendez-vous à 10h. Toutes ces infos, vous les retrouvez sur notre site internet ou sur notre Facebook, bien entendu.
Tu voulais nous parler aussi du 15 novembre. Alors, on est dans l'ordre chronologique. C'est la soirée de...
Il me manque des infos, mais je vais quand même en parler. Le mois dernier, sur Du bruit dans les feuilles, je vous avais passé un petit reportage. Alors, on a été assez précurseurs. Alors, c'est une initiative de Seb de la Soulondre. C'est pareil, c'est un qui parle beaucoup aussi. Vous l'avez sûrement rencontré si vous êtes un peu actif dans les associations lodévoises. Mais c'est quelqu'un qui a plein de super idées. Et il m'avait fait passer... il monte à un blog autour de l'Odève, il est très actif sur les réseaux et il m'a fait passer, on entendait encore peu parler de lui, c'est la nouvelle coqueluche des bobos justement, c'est Aurélien Barraud qui est aussi, qui défend les animalistes et tout ça, et qui a fait cette petite intervention de 10 minutes qui a été partagée je crois 4 ou 5 millions de fois depuis sur YouTube, donc on était précurseurs, donc ces petites 10 minutes elles permettaient de s'ouvrir à tout ce qu'on parle tout le temps, c'est à savoir c'est bien beau de vouloir sauver la planète mais comment on fait? Et donc Sébastien a eu envie d'organiser une soirée pour un petit peu réunir l'ensemble de la société civile et de dire qu'est-ce qu'on fait nous concrètement à l'Odève aujourd'hui, est-ce qu'on va du côté du SCOT et du PTAC ou bien est-ce qu'on prend juste notre petite pioche et puis qu'on va faire un trou et qu'on va planter un arbre, comment on travaille ensemble, comment on a envie de faire des choses ensemble. Et il a du coup monté une soirée qui pour l'instant elle s'appelle soirée effondrement. Alors moi on va peut-être c'est pas très marketing, mais néanmoins l'idée
parlant.
C'est ça. C'est le 15 novembre, ça se passera au CLAP. Je vous parle régulièrement du CLAP parce qu'on y a nos bureaux. C'est pareil, c'est un lieu collaboratif où s'investissent énormément de gens, qui est basé sur le bénévolat aussi et qui fait naître aussi plein de choses intéressantes, dont des soirées comme ça autour de discussions et de conférences. Là, ça sera plutôt une discussion. On projettera la petite intervention de Monsieur Barraud. Et puis par la suite, on discutera entre nous de comment on peut s'organiser. Voilà, ça c'est le 15 novembre. Ça sera en soirée. À suivre. Si vous êtes un petit peu sur les réseaux locaux, c'est Seb de la Soulondre, il s'appelle sur Facebook.
Et la dernière de nos dates, c'est...
Alors là, c'est chez nous. Enfin, c'est chez nous. C'est le 18 novembre. C'est apprendre à bien planter un arbre. Alors j'en ai parlé. J'ai dit planter des haies et tout ça. Ben finalement, planter un arbre, c'est pas si simple que ça. Donc on aime bien faire des petites journées techniques. Non pas qu'il faille être polytechnicien pour planter un arbre, mais enfin il y a 2-3 petits trucs qui peuvent aider à la reprise, à commencer par bien choisir l'arbre et bien l'accompagner.
Bien préparer le sol, etc. Donc
voilà, on en parle tout ça pendant une journée, c'est le 15 novembre, ça sera au CLAP, il faut nous envoyer un petit mail, c'est sur réservation, mais ça sera au CLAP, dans tous les cas, la théorie le matin, ça sera au CLAP, on verra après où est-ce qu'on va planter ces petits arbres, parce qu'on fait toujours un peu d'atelier pratique dans ces moments. La dernière date, c'était la dernière.
Bon, après il y en aura d'autres parce que on recommence du coup le cycle des formations et des journées de formation. Donc la plantation viendra la taille plus tard, la greffe, enfin bref, voilà.
Voilà,
ça
tout
reprend.
Ça vous le retrouvez sur nos agendas, aussi bien sur le site internet que sur le Facebook, voire même le Twitter si vous êtes des multi-connectés.
Oh là là, quelle chance. On va dire merci à tout le monde. Merci à Radio Lodève, comme d'habitude.
Oui, merci à Radio Lodève, comme d'habitude. On le dit jamais assez. Radio Lodève, c'est un peu comme une boutique paysanne. C'est aussi
Faites-vous-même votre
émission. C'est aussi un service local et on peut y participer. Si vous avez des envies de radio, n'hésitez pas. Je le dis à chaque fois, mais parce que c'est important. La radio, elle a besoin aussi de trouver des nouveaux souffles. On doit y aller. Merci Philippe. Merci Anne. Merci Radio Lodève. Merci à tous de votre écoute bienveillante. Au mois prochain, on se quitte avec Juliette. Alors, c'est encore un petit morceau qui parle un petit peu d'écologie. Il est signé de Raymond Assot. Il date des années 20, fin des années 20, et c'est une reprise, celle-là, par Juliette.
C'est une chanson qui date des années 30, qui a été écrite pour les paroles par Raymond Assot, et pour la musique, je crois, par un monsieur qui s'appelait Gallo, d'après ce que j'ai vu. Cette chanson, elle est bien dans le contexte des années 30, dont je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler comment elles se sont terminées, par les années 40. Et donc c'est une chanson qui malheureusement reste toujours d'actualité pour plein de raisons. Voilà, pour plein de raisons, et voilà. C'est tout. Nous sommes maîtres de la terre. Nous nous croyons des presque dieux, et pend le nez dans la poussière, qu'est-ce que nous sommes, dépouilleux. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous. Et l'on invente des drapeaux. On met des couleurs aux chemises. Sous les chemises, il y a la peau. Et là-haut, les oiseaux qui nous voient tout petits, si petits, tournent sur nous. la vie pourrait être si belle si l'on voulait vivre d'abord. Pourquoi se creuser la cervelle quand il y a du bon soleil?